6h du matin. Une ville endormie. Un air peut-être frais, mais déjà en présence de ce premier rayon qui vient d'apparaître, des éclairages. Une ville endormie, des sommets. Le Misti, on le connaît déjà un peu mieux, il a cette forme terriblement conique, parfaite. Quelque chose comme 5800 mètres. Une vallée d'abord infinie, puis qui commence à se craqueler, qui commence à perdre ses dernières terrasses, ses dernières verdures, et vous rentrez dans un univers minéral. Il y a encore l'arrière du Picchu Picchu, le tout vieux volcan. Bon, 5600 quand même. Il est monté assez haut déjà. Et puis vous découvrez, tiens, un univers un peu gelé, parce que cette nuit il a fait peut-être moins 10, moins 15. Ah, vous êtes monté là, vous êtes déjà... On était à 2000 et quelques, on est presque à 4002. Respirez. Reprenez votre pouls. Reprenez vos poumons. Remontez-les un peu. Le Soroche, ce petit rien d'altitude qui vous sert aux tempes, a peut-être déjà commencé à passer, mais il faut s'habituer à l'altitude. Tiens, votre première vigogne. Elle a la queue qui bouge comme ça, elle est tellement drôle, on dirait une biche. Elle a ce côté jaune, le même jaune qui vient de se profiler à l'horizon, ce soleil qui sort doucement, le Tchatchani. Un autre sommet parfait, un sommet qui fait rêver n'importe quel Indien. Il y a les légendes, il s'est marié, elle l'a épousé, ce sommet rencontre cet autre sommet. Il y a l'Ampato, il monte à 6300 mètres, il est beau ce matin, il est éclairé... Moitié, moitié, un peu de bleu, déjà du jaune, un peu d'orange. Et devant vous, une autre vigogne qui court. Elles sont sauvages, elles n'aiment pas qu'on les attrape, non. Savez-vous qu'à l'époque Inca, lorsqu'on voulait chasser la vigogne, ça n'était pas pour la tuer, non, non, c'était pour cette laine. Elle est d'une douceur, quelque chose qui ferait penser, j'ai envie de dire, non seulement douceur, mais j'ai envie de dire, plus doux que le cachemire. Plus doux que la ouate qu'on caresserait. Vous savez, ce premier petit duvet qu'on a sur le corps d'un enfant. Cette impression comme ça de découvrir un animal fragile, j'ai dit sauvage, mais il a quelque chose de léger, une façon de tenir une patte, de tout à coup d'étendre l'arrière et puis de se mettre à courir, se réunir, se mettre ensemble. Elles vivent ensemble, ces vigognes, parce que tout à coup il y en a 10, il y en a 20, il y en a 100. Elles sont là sur ce sol gelé, elles cherchent l'eau à travers les morceaux de glace qui commencent à fondre. Il y a partout un petit glouglou. Vous avez déjà vu cette glace avec dessous comme des bulles d'air qui glissent. Et puis un endroit s'est brisé sous cette patte délicate, patte de biche, patte presque de velours, parce que sans sa toison, ce qui est sous son cou est plus clair. Et il y a ce jaune, il y a ses petites oreilles qui tournent, cette petite frimousse, ses yeux tout ronds qui vous regardent. Ah, elle est à 50 mètres, mais vous avez l'impression qu'elle a gardé ce côté minuscule. Elle doit faire 1,20 m, 1,30 m de hauteur. À l'époque Inca, je le disais, bien pour les réunir, lorsqu'on en voulait quelques milliers pour avoir de la laine, pour avoir cette merveille à tisser, cette merveille à travailler, eh bien, on disait que les Incas se mettaient ensemble, plus exactement que l'Inca, celui qui était le représentant de ce soleil qui monte, Inti, la puissance solaire qui monte maintenant à l'horizon, eh bien il donnait un ordre. Et tous les Indiens des hauts plateaux se réunissaient, les hommes, les femmes, et petit à petit on s'approchait de tous côtés de cette espèce de vallée, de ce creux curieux, de cette espèce de détroit qui permet de tenir les animaux ensemble. Et sur les 50 ou 60 derniers kilomètres, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est vrai, on le fait encore aujourd'hui, on se tenait la main. Et puis on resserrait le cercle, petit à petit. Des milliers d'hommes et de femmes qui petit à petit reprenaient le troupeau, qui petit à petit ramenaient ces animaux juste vers l'enclos, vers l'endroit où maintenant complètement enfermés, un peu affolés, eh bien on les attrapait avec ces petites boules qui sont des pierres, bien sûr, qui étaient fixées au bout de lanières de cuir et qu'on enroulait autour de leurs pattes, on les attachait. Et puis on les tailladait doucement, on leur enlevait ce pelage léger et puis ensuite on les lâchait. Et la gambade, le départ d'une vigogne qu'on vient de tondre, c'est vraiment comme si tout à coup le jardin d'Éden se retournait à l'envers, comme si on retournait à l'origine, comme si on avait encore le droit à ce paradis, qu'on avait droit à cette liberté, à cet espace infini. Maintenant, le soleil est déjà beaucoup plus haut. Les vigognes, elles pèsent doucement. Tiens, il y a aussi un troupeau d'alpacas. Ils sont encore plus curieux. Ceux-ci doivent appartenir à un Indien qui les a battés, qui les a chargés, parce que ils sont déjà prêts à partir pour une caravane. Ils ont... le bas, c'est une sorte de double selle, comme ça, avec quelque chose comme 15 ou 20 kilos, je ne sais pas, de pommes de terre, de maïs. On ne sait pas ce que les Indiens portent sur le dos de leur lama ou de leur alpaca. Mais ce qui est curieux, c'est que l'alpaca, quand il vous voit, c'est un petit peu le côté Capinada. Donc il se retourne, il vous regarde à la façon Tintin, et il a une frimousse, alors, avec ses poils de tous côtés. Chacun est différent. Ils ont l'air de frimousse, de se retrousser les babines, d'avoir cette fente assez particulière des camélidés sur l'avant du museau, puis ses yeux tout ronds qui tournent. Il vous regarde avec un certain dédain. Va-t-il cracher? Ne va-t-il pas cracher? Comment fonctionne-t-il, l'alpaca? Il se retourne encore, il repart, il broute doucement. Ces espèces de baladeries, ces grandes touffes d'ichoux, cette herbe qui recouvre l'ensemble des hauts plateaux que l'on traverse maintenant. Et là, dans un angle du ravin, juste au coin du dernier virage, il y en a eu déjà plusieurs milliers derrière vous, il y a déjà 3 heures que vous roulez sur une piste impossible, un petit groupe d'indigènes, une petite indienne qui attend au bord du chemin et qui vous tend doucement un caillou. Vous le regardez, tiens, c'est une obsidienne, tiens, c'est un petit morceau de cristal de roche. Elle a marché, on le voit à ses pieds, souvent nus. Il fait encore frais ce matin, là la température est montée petit à petit, il doit bien faire 10 degrés. Vous êtes déjà à presque 150 kilomètres d'Arequipa, cette ville des hauts plateaux du Pérou, et vous pénétrez petit à petit dans le canyon de Colca. Mais juste avant de vraiment sentir la fin de cet univers minéral, une petite indienne qui tenait ses cahiers vous dit « Tu connais Moyel Ponku ?» Voyez le bon coup. Oui, viens. Et puis elle vous entraîne comme ça. Vous posez la voiture, vous avez déjà discuté un moment, vous vous dites, tiens, je vais quand même fermer les portes. On est à 1000 miles de tout, il n'y a personne aux alentours. Et vous suivez la petite enfant. Eh oui, elle porte ces costumes qu'on reconnaît à tous ceux qui vivent en-dessus de 4000 mètres d'altitude. Un petit rien d'effrangé, un petit rien de pas trop lavé, un petit rien qui fait que la peau n'est plus tout à fait la couleur de la peau qu'on attend. Ses jambes sont encore marquées par la poussière du jour précédent. Elle a cette frimousse tellement curieuse. Vous avez vu ses joues? Elles sont beaucoup plus ballonnées, plus rondes que celles de nos enfants. Et c'est vrai qu'il y a presque un côté plat juste en dessous des yeux, mais un côté plat qui est devenu un peu rugueux, oui, un peu rouge, un peu grillé par le soleil. Des coups de soleil, bon, elle les aura tous les jours. Le soleil est tellement dur aux alentours de midi. Ces enfants sont marqués par le climat, par cette étrange fraîcheur, cette pureté de l'air. Et ils ont surtout quelque chose qui m'a toujours touché. Chaque fois que j'ai pris la main d'un enfant à cette altitude dans ce pays qu'est le Pérou, on a l'impression de toucher quelque chose qui est doux au niveau du cœur. On le sent très très vite, il y a comme un contact chaud, mais la peau est rugueuse, elle a quelque chose du cuir, elle a quelque chose de « je vis dans une petite hutte perdue, je vis dans cet univers » qui fait qu'avec quelques lamas, avec un tout petit peu de pommes de terre, avec un rien d'eau, je dois survivre, je dois fonctionner. Chaque fois qu'on découvre un hameau ou une de ces fermes perdues, dans le brun de la caillasse, cette ferme qui elle-même est brune de terre, avec du chaume sur le toit, avec juste un petit chien famélique, avec 3 poulets, une impression d'univers perdu, de gens qui ont tout ça dans les yeux. Il y a quelque chose qui brille aussi. Je parlais du cœur, je parlais de la chaleur. Elle vous emmène à travers un petit sentier. Il y a des plantes curieuses, des plantes qui ne peuvent pousser qu'à 4000. Un arbre, tiens, vous l'avez remarqué? Je n'avais jamais vu un arbre en millefeuilles. Vous regardez le tronc, il est brun. Il a quelque chose d'orange en même temps. Ce sont des feuilles. Vous avez déjà touché du papier de soie? Eh bien, ce sont des milliers de feuilles de papier de soie qui sont déposées autour d'un tronc extrêmement rugueux, extrêmement noueux, qui monte comme cela en forme étrange vers le ciel. Il y a des feuilles, elles sont bien vertes, mais elles sont comme rétrécies, comme resserrées. Et puis ce tronc est curieux parce que ces feuilles, les unes sur les autres, vous dites, mais Dermos finalement, non? pour pouvoir vivre comme cela à 5500 mètres d'altitude. C'est l'arbre qui vit certainement le plus haut dans le monde. Ben oui, il s'est mis quelques couches d'écorce fine comme du papier de soie. Vous avez déjà eu très froid en montagne, sous votre anorak, un petit rien de papier journal, quelques feuilles, un peu d'air entre chaque feuille. Vous pouvez tenir un hiver, vous pouvez supporter moins 40. Tiens, on vient de passer le dernier rocher. Qu'est-ce que c'est ? Une grotte ? Moyepunku. Un rien d'agriculture, un soupçon de ferme, cet enfant qui doit bien vivre à quelque part, ces quelques indigènes que vous avez croisés avec simplement un outil de paysan sur le dos, avec leur bonnet de laine qui leur cache bien les oreilles, qui pourraient tomber toutes gelées s'ils étaient sortis trop tôt le matin. Et puis cette impression de se courber vers la terre, de devoir travailler avec un simple bâton planteur, avec une houe qui est plus dure qu'ailleurs, parce que c'est vous-même, l'homme lui-même, qui va tirer la charrue. Ce n'est pas une charrue, c'est une espèce d'outil étrange avec une simple pointe de bois, de fer. Et puis cette grotte qui apparaît dans des rochers rouges, un rouge très 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 curieux, parce qu'il est brun lisse avec des rayes noires, jaunes, blanches, et puis il y a des cactus un peu partout, il y a des plantes que vous ne connaissez pas, et puis l'entrée de la grotte est déjà curieuse. Tiens, je viens d'apercevoir quelque chose de fantastique. Juste avant de pénétrer, on a l'impression que les gens sont venus avec un galet ou peut-être un silex ou en tout cas une pierre plus dure que cette roche. Ah, c'est un calcaire assez dur quand même, c'est un basalte peut-être même. Et là, on voit que les gens ont creusé comme des... comment dirais-je, des sortes de lunules comme ça, comme s'ils avaient pris volontairement ce caillou plus dur pour arriver à faire une forme arrondie, et puis petit à petit, en tournant la pierre, vous frottez la pierre, vous frottez cette pierre un peu sablonneuse et il en tombe une poudre. Et vous avez l'impression qu'on a mis la main dessous pour prendre la poudre, parce qu'elle a quelque chose de sacré, cette poudre. C'est l'entrée d'une grotte, assez fantastique. Imaginez-vous, il y a 7000 ans, on vivait déjà sur ces hauts plateaux, on avait la même bouille que la petite indienne, la même tête que ces quelques paysans, et l'on pénétrait dans cette grotte avec ce même caillou. Et on s'est dit, tiens, est-ce que je pourrais représenter mon univers ? Un lama, un alpaca, un guanaco. Tiens, celui-ci a une corde autour du cou. Il était déjà domestiqué. Un peu plus loin, un homme avec quelque chose qui ressemble à une javeline, un chaman. Et tiens, la croix du sud, pourquoi pas ? La forme d'une constellation, quelques dessins. Et puis tout à coup, dans l'obscurité, dans ce fond un peu rétréci de ce cheminement minéral, des centaines de sculptures qui se dessinent en relief. À l'heure où le soleil vient pénétrer et donner une lueur un peu plus vive, vous remarquez que les ombres se portent sur des ensembles, des troupeaux entiers. Vous vous rappelez ? Des vigognes. J'ai encore envie de dire alpaca, yama. Ah, peut-être guanaco. Ils sont un peu plus grands, un peu plus hauts. J'ai déjà vu le soleil, j'ai déjà vu la lune. Tiens, j'ai remarqué tous ces camélidés, c'est vrai, j'ai vu... Tiens, un chasseur. Il y a toute une vie, toute une tribu, toute une façon nomade de fonctionner. On voit, avec les millénaires, comment ont pu petit à petit s'installer sur des endroits complètement impossibles, ces premiers indigènes. Et puis, vous savez qu'un peu plus loin, il y aura ce canyon des Colca. Il y a des noms d'indigènes qui sonnent étrangement quand on les prononce pour la première fois. Je pense, par exemple, aux Kayawas. Les Koyawas, c'est une tribu d'Indiens qui... Bon, c'est plus qu'une tribu, c'est une civilisation finalement, qui a précédé les Incas, déjà il y a 2000 ans peut-être, et qui se sont installés dans une zone qui... Comment vous la décrire ? C'est une dépression, une des dépressions les plus folles que je connaisse sur cette planète. Je vous ai parlé de sommets qui montaient à 6000 à 5000 mètres d'altitude. Eh bien, c'est à peu près 2 à 3 fois plus profond que le canyon du Colorado. C'est un endroit où vous avez tout à coup la terre qui a été creusée, brigandée, carrément travaillée par les eaux. Et ce canyon s'est enfoncé petit à petit. Cette eau a pénétré jusqu'au cœur de la terre. Et il y a des endroits où vous êtes placé sur le bord de la piste et vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Entre le sommet que je vois, enfin, qui est juste devant vous et puis le fond du canyon, il doit y avoir 3000, 3500 mètres de différence. Ça paraît affolant de penser aux milliers, aux millions d'années qu'il a fallu pour que cette eau descende petit à petit jusqu'au Pacifique et se creuse un chemin. Là, on est quand même à plusieurs centaines de kilomètres. Je ne sais pas, la route qui part depuis Nazca jusqu'à Arequipa doit bien faire quelque chose comme 550 ou 580 kilomètres. Donc, il y a plus de 600 kilomètres de ravines, de descentes, de canyons pour arriver jusqu'à ce Pacifique. Vraiment une coupure, une des plus incroyables que l'eau n'ait jamais pu creuser à travers les Andes. Et puis là, lorsque vous êtes au bord, et bien tout à coup, vous voyez que l'homme est là depuis des milliers d'années. On dit Kolka, tout simplement parce que ces mêmes indigènes, il y a des milliers d'années, se sont rendus compte que s'il y avait un ravin, s'il y avait de l'eau au fond, on pouvait peut-être la faire remonter en surface ou en tout cas utiliser tous ces ruisselets qui descendent des glaciers. Et pourquoi pas réinstaller ou installer ou creuser ou construire des terrasses. Mais quand je dis terrasse, est-ce que vous voyez à quoi ressemble une terrasse ? Vous avez naturellement ce haut plateau, cette chute verticale, mais vous avez involontairement aussi toute une suite d'escaliers naturels qui descendent petit à petit le précipice. Et là, l'homme, petit à petit aussi, a décidé de domestiquer tout cela. Comme il avait de l'eau qui ruisselait, il s'est dit pourquoi pas. Je fais une première terrasse, je mets une murette parfaite, je fais un fond avec de la caillasse, je rajoute de la terre, je mets une terre arable par-dessus, je fais un écoulement parfait, je tombe sur la terrasse d'en dessous, je refais une terrasse, mais pas une, pas 100, pas 1000, des millions de terrasses. Quand je dis millions, vous vous retournez de chaque côté, où que vous regardiez, il n'y a que des terrasses. Des terrasses que l'homme a dû construire sur des millénaires avec une perfection diabolique et le paysan d'aujourd'hui continue à venir pour planter de la quinoa. Vous connaissez la quinoa ? C'est justement la saison. Là. En plein été chez nous, c'est-à-dire en plein hiver chez eux, c'est le moment où on commence à la couper. Oh, ça ressemble à une longue canne avec quelques feuilles qui ont séché maintenant et il y a une sorte de long toupet, comme un grand toupet de roseau, mais quand vous vous approchez, vous voyez que c'est fait de milliers de petits grains, tout petits, avec des balles minuscules. Il vous suffit de les prendre dans la main et de les frotter et la quinoa vous fait une toute petite graine. Ouf, vous la verriez insignifiante si vous la prenez en unité, mais lorsque vous en avez quelques milliers comme cela, vous allez pouvoir faire une soupe, vous allez pouvoir faire une farine, vous allez pouvoir faire certains aliments ou condiments même qui représentent peut-être la nourriture la plus incroyable de cette planète. La quinoa, on recommence à la découvrir. C'est certainement l'aliment le plus riche que l'Indien n'ait jamais découvert. La pomme de terre, c'est bien. Le maïs, c'est pas mal, mais la quinoa, c'est génial. Et en l'occurrence, vous avez tout ce qu'il faut pour nourrir quelques milliers d'habitants qui se sont installés dans des tout petits hameaux. Alors, quand on pénètre dans le canyon de Kolka, ce qui touche d'abord, c'est ce côté minéral que j'évoquais, c'est ce côté sauvage, et puis en même temps cette domestication incroyable de l'homme. Alors bien sûr, il y a partout des petits hameaux, des petits villages. L'endroit le plus connu, c'est Chivay. Chivay, c'est une véritable ville, elle est posée comme cela sur un plateau. Alors aujourd'hui, là, vous étiez dans la grotte, et ensuite vous avez découvert le canyon, vous avez eu les yeux complètement écarquillés, vous ne pensiez pas que ça pouvait exister comme ça à 5 ou 6 heures de route d'Arequipa avec des pistes pareilles. C'est vraiment le bout du monde. Là, vous ne savez même plus où vous êtes. Et tiens, c'est Yudi qui nous accompagne. Elle porte un nom un peu bizarre, parce que Yudi, c'est pas vraiment le nom le plus indigène qui soit, mais son père est chaman. Regardez sa tête, elle porte un bonnet à l'indienne, elle a des cheveux noirs qui brillent de façon étrange, ils sont presque bleu corbeau comme cela. Elle a des yeux à peine en amande qui sortent un tout petit peu des orbites, qui brillent de façon, il y a quelque chose du jet comme ça, comme de l'obsidienne. éoliennes aussi que j'évoquais tout à l'heure, cette pierre volcanique vitrifiée. Et puis elle a surtout un nez. Le nez façon quechua, avec juste ce petit rien cassé, cette façon un peu aigle comme ça, ce côté aquilin justement qui fait qu'elle a une expression un peu biseautée, avec des joues très, très marquées, presque aussi foncées que celles de l'enfant de tout à l'heure. Elle a un ton brun, d'une violence. Je dis violent parce que c'est vraiment un teint de peau. C'est doux à la fois et en même temps ça a quelque chose d'inconnu. Quand on est si indien, si brun, comme ça, on se dit, tiens, de quelle planète viennent-ils? Elle fait effectivement un rien asiatique, mais elle a surtout cette dimension terriblement inca. Et puis elle parle quechua. Ses parents étaient des paysans qui vivaient non loin de là, dans ce canyon des Colca. Elle connaît tout, elle connaît chacun, elle connaît chaque nom de lieu, elle connaît surtout les plantes, les animaux. Elle vous montre, tiens, c'est une plante curieuse, ça monte, mais ça monte encore, c'est pas possible, c'est un cactus qui d'un seul coup fleurit. Qu'est-ce que ça fleurit? Je crois une fois par siècle, tout bêtement. Et ce cactus explose d'un seul coup et monte à quelque chose comme 7 ou 8 mètres de hauteur, une espèce d'énorme fleur qui sort d'une étrange agave. Un peu plus loin, il y a des cactus qui ont des formes, ben, vous avez des cactus cierges, vous avez des cactus qui sont en forme d'orgue. Un peu plus loin, ce sont des tout petits qui fleurissent au sol avec des éclatements oranges, avec des couleurs jaunes, rouges, violettes. Violettes, oui, parce que c'est vraiment le ton peut-être le plus fort. Quand je dis violet, c'est plutôt un mauve acide comme ça, quelque chose qui a quelque chose d'alpestre, d'andin, avec le milieu jaune. Et puis, curieusement, vous découvrez des animaux que vous n'imaginiez pas à 4000 mètres d'altitude. Tiens, je viens de voir passer un colibri, je rêve. Et oui, il y a un colibri andin, il est assez grand, il fait quelque chose comme 10 à 15 cm de longueur quand il est vraiment adulte. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne, parce qu'il vole terriblement vite. C'est un oiseau mouche, hein, à sa façon, avec cette ondulation à plusieurs milliers de battements par je ne sais quoi pour chaque aile. Et puis il a cette façon avec son bec de venir butiner toutes les plantes qui traînent. Tiens, encore un de ces vieux arbres façon millefeuille. Tiens, quelques eucalyptus quand même. Ça, c'est l'Australie qui nous les a donnés au XVIIIe siècle. Quelques pins, des formes étranges. On a l'impression qu'autant la faune que la flore a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis, lorsque vous êtes installé au bord du canyon, où est-ce qu'on va dormir? On peut aller un petit peu plus loin que Chivay et s'installer chez, pourquoi pas, Mauricio par exemple. Il est là depuis une dizaine d'années. Bon, il est arrivé pratiquement en même temps que les Polonais, les premiers Polonais qui ont découvert l'endroit. Mais on croit rêver, ça a été découvert seulement en 1931 et c'est en 1990 qu'on a véritablement fait l'exploration de ce canyon. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que ces premières expéditions, ces premiers Polonais qui étaient venus pour voir cet endroit minéral où vivaient pourtant des milliers d'Indiens complètement isolés du monde, eh bien je crois qu'ils ont mis 34 jours pour arriver à pénétrer ce canyon et à le rencontrer, à le connaître un peu mieux. Et la grande découverte de l'époque, je dirais que c'est, on y sera tout à l'heure, c'est le sanctuaire peut-être le plus fou que je connaisse de toute l'Amérique du Sud. On l'appelle la Croix du Condor. Quand on dit condor, rien que le mot, rien que l'évocation, c'est plus que le soleil de tout à l'heure, c'est plus que l'aigle, c'est plus que le jaguar. Essayez de tendre vos bras, écartez-les doucement. Vous vous mettez des plumes de quelque chose comme 40 à 50 cm au bout de vos bras, dans le sens naturellement de l'air. Vous vous laissez glisser. Vous imaginez, oubliez votre tête, oubliez votre collier, oubliez cette allure un peu bizarre avec ce côté flétri, ce rouge, ces yeux brillants, ce côté agressif, ce bec de charognard. Non, non, pensez à ces ailes, à ces incroyables ailes qui poussent dans quelques instants. Vous aurez 3,50 m d'envergure et vous allez voler. Regardez le haut, regardez le bas. Ils ont 3000 mètres, ils ont 600 km. Pour un jour, pour quelques heures, le matin s'est levé, le soleil est là, il y a des nids. Un nid, celui du condor. Un mâle, différent de la femelle, les plumes ne sont pas les mêmes. Quelques enfants, quelques petits condors qui traînent là juste en dessous de vous, à quelques dizaines de mètres. Là, en quelques instants, parce que vous vous êtes trompé d'endroit, tout à coup il y en a plus d'une vingtaine, toujours 3,50 m, qui volent à 50 mètres, 40 mètres. Il vient de vous effleurer. Vous avez entendu la plume et la glisser. S'il en perdait une, vous seriez Dieu. Vous voyez le Mirador? Ah, c'est une pointe qui plonge comme cela à pic. Bon, la chute est verticale. Je pense qu'on doit avoir environ 1500 à 1800 mètres de chute verticale. La roche descend d'un coup. En bas, vous le voyez, il est minuscule. Le rio, la rivière. Vous voyez, elle court doucement, elle brille, parce que là, il est déjà 10 heures du matin. C'est la bonne heure. C'est le moment où les derniers condors remontent, parce que vous avez senti cette espèce de courant étrange qui vient d'ailleurs, comme cela, comme s'il remontait ces 600 km et qu'il vous portait. Vous êtes assis carrément sur le bout d'une roche face à la croix, vous avez changé de mirador, et là, vous êtes assis entre quelques cactus, il y a toutes sortes de plantes qui picotent, et vous êtes vraiment sur le dernier promontoire. Vous osez jeter les deux jambes dans le vide, vous vous tenez comme sur un cheval, comme sur une selle, et vous vous accrochez parce que le vide est terriblement attirant. Mais en pensant tout à l'heure, en tirant vos bras sur l'extérieur, au moment où vous avez voulu planer, vous avez senti cet air un peu plus chaud qui venait d'en bas et qui vous portait. C'est pour cela que vous les voyez ainsi, aux alentours de 10 heures, retourner au logis, revenir à leur nid. Il est juste là en dessous, le grand nid. Ah tiens, il y en a un autre là-bas. Et cette vingtaine de condors qui tournent doucement dans cet espace, en face de vous, il y a quand même un kilomètre et demi, jusqu'à l'autre montagne, jusqu'à l'autre versant, qui lui-même monte beaucoup plus haut que vous. Vous devez carrément lever les yeux au ciel pour voir le sommet. Et là, vous sentez ces grands oiseaux noirs avec leurs plumes blanches qui tournent doucement. Ah, ce qui est beau, c'est le moment où ils tournent, justement, le moment où ils longent. Vous savez, comme vous les voyez au bord du Salève, hein, quand ils sont plusieurs, comme ça, à se laisser plonger, à se laisser descendre, ils se croisent, on ne sait pas comment. Il y a quelque chose d'un peu magique dans cette façon de prendre les courants, de prendre l'air chaud, de se laisser à la fois bercer et de glisser avec cette vitesse, ce bruit curieux, et puis tout à coup, ils montent en dessus de vous et ils tournent dans l'espace en faisant des ronds énormes. Ils cherchent leur proie, bien sûr, et là, si par hasard vous les voyez se réunir dans leur vol, c'est qu'effectivement, un vieux lama un peu malade, tiens, ce sont les charognards. Il y a eu d'autres animaux qui viendront attaquer d'abord. Non, non. Le condor attendra l'heure de la mort, je dirais même l'heure de l'après-mort, avant de plonger et de se nourrir. Là, ils deviennent un peu laids. Leurs ailes sont tombées, ils se sont refermés, les serres ont commencé à tenir la chair, et ce bec étrange commence à plonger dans une viande qui a déjà quelques heures de chaleur, qui a déjà passé le cap de ce qu'on appelle la fraîcheur. Non, non, ce sont bien des charognards, mais lorsqu'ils volent, ils sont absolument royaux. Et ce qui est curieux dans le vol du condor, c'est la façon de vous observer. Vous avez l'impression qu'il vous a repéré. Il attend que vous soyez tranquille, il espère que vous soyez calme, il imagine que vous pouvez mourir, il voudrait savoir si vous êtes suffisamment faible pour vous relâcher et tout à coup devenir le cadavre qui lui ferait plaisir. C'est vrai que de penser que ces animaux, ces oiseaux arrivent faire, comme ça en quelques heures à faire plusieurs centaines de kilomètres en se laissant simplement. On n'a jamais l'impression qu'ils donnent un coup d'aile. Hein. Ce sont des planeurs géants. 3 m50. Vous voyez ce que ça représente? C'est l'oiseau de plus grande envergure que la planète puisse porter. Et lorsqu'il s'approche de vous ou que par hasard il vous a sifflé aux oreilles, là j'avoue que c'est un des plus grands frissons que j'ai ressenti. À partir de là, vous pouvez choisir de descendre jusqu'au fond du canyon. Vous pouvez aller visiter ces différents endroits où se retrouvent ces terrasses et ces ruisselets. Vous allez voir comment vivent ces Indiens. Et surtout découvrir quelques joyaux coloniaux. Y a de toutes petites églises comme ça. Je ne sais pas si vous êtes par exemple à Yaoke. Tiens, Yaoke, c'est un... Ah tiens, il y a un enterrement là. Vous voyez, juste à côté du cimetière, on voit ces hommes. Ils sont tous avec leur chapeau noir, avec leur petit costume étriqué, avec cette laine qu'ils portent sous la veste. Je dirais qu'on s'habille des fois un peu comme nous, à la métisse. Mais l'Indienne, par contre, a gardé son costume particulier, ce chapeau très marqué sur le front, avec une paille lissée, voire carrément laquée. Et puis, il y a naturellement ce côté poncho, c'est-à-dire cette façon de porter le vêtement très bas, ou la jupe trop longue, trop bouffante. Là, je ne sais pas, ils sont 200 à 300 en train de suivre un étrange cercueil, qui n'est pas un vrai cercueil, non, c'est une chose en planche, un peu curieuse. Et puis le cimetière est fleuri, il y a des guirlandes, il y a des décors un peu partout. Et un peu plus loin, dans le petit village, les villages sont curieux. Ils ont à la fois ce côté terre, ce côté poussière. Certains sont encore complètement recouverts de chaume. On a l'impression de quelque chose d'écrasé au niveau du sol. On sent comme une pression. l'élévation, comme si l'altitude était trop forte et que ces villages étaient carrément pressurisés comme cela. Et au centre, vous avez une église qui n'ose pas pousser. Une fois de plus, on sent que le clocher craint les tremblements de terre. C'est vrai qu'on a le cas dans le village de Maca, qui est juste à côté, où il y a quelques années, ben, je crois que c'est au moment où les Polonais sont arrivés, là, dans le début des années 80, que tout à coup, on a eu un tremblement de terre tellement impressionnant qu'un pan entier de la montagne est descendu, comme si un plateau entier était descendu de plusieurs centaines de mètres, et le village a suivi. Et on prétend que certains endroits sont descendus de plus de 250 à 300 mètres dans le vide, comme si tout à coup vous aviez lâché le plateau et qu'il s'était retrouvé plus bas. Les habitants en gardent un souvenir absolument incroyable. On se rappelle, il y avait encore l'organiste, vous savez, c'est un de ces vieux orgues d'il y a quelques siècles qui fonctionne avec un soufflet, comme ça, un peu comme nos vieux harmoniums. Enfin, il fallait actionner le soufflet pour faire marcher le tout. Et puis, on est dans l'église, on est en train de faire un culte, et tout à coup, l'église elle-même commence à bouger, les cloches se déplacent, les tours se fendent et tombent doucement, et puis les crevasses s'ouvrent. C'est ça qui est impressionnant. C'est de voir aujourd'hui que les terrasses humaines ont suivi le mouvement des terrasses du tremblement de terre. On a l'impression qu'il manque tout à coup 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, des cassures tout à fait marquées, comme si tout s'était fissuré. Vous savez, comme quand vous ratez un gâteau et qu'il se démonte tout seul. Ben, c'est exactement cela. Et plus loin, vous avez le petit village que j'évoquais, celui de Yaoké. Et là, il y a une petite église au centre. Oh, elle est touchante. Et là, je ne sais pas, c'est peut-être un Saint-Jacques, c'est peut-être un archange Saint-Michel qui est au sommet. On a l'impression qu'il va tomber demain. Il y a quelques merlons avec des boules par-dessus. Vous pouvez monter sur le toit. Tiens, juste à côté, il y a une petite sœur avec un accent étranger qui vous accueille, qui vous dit « Oui, oui, c'est la seule église où vous pouvez grimper. Vous allez voir que depuis le sommet, on voit tout le village, on voit toute la vallée. » Et vous montez sur une terrasse comme cela, et vous vous rendez compte que la voûte est faite d'un seul bloc avec simplement des briques ajustées et que le tout est complètement recouvert de chaux blanches. Il y a toujours ce clocher avec cette façon ramassée. Il y a surtout cette superbe façade qui est complètement travaillée dans la pierre avec un côté naïf. Et à l'intérieur, si vous pouvez y pénétrer, vous allez remarquer qu'il y a 200 ou 300 ans, l'or était encore présent. Il y avait ce côté baroque, il y avait ces petits autels, il y a ce côté naïf de l'intérieur qui sculpte n'importe quel morceau de bois pour en faire quelque chose à la fois de charmant et de divin, d'évocateur. Il y a la couleur aussi, et puis des meubles, une vieille sacristie, une ambiance, et toujours dehors cette impression qu'on traîne un peu la patte, qu'on est effectivement un peu comme au Népal, un peu comme aux Anskars, un peu comme dans ces pays trop hauts, dans ces atmosphères un peu himalayennes, cette impression que la vie n'a pas le même rythme, que le souffle n'est pas le même. Yaoké, c'est certainement, avec le paysage aux alentours et toutes ces terrasses, la plus belle ponctuation qu'on puisse trouver, parce qu'on évoque naturellement une fois de plus ces volcans qui marquent l'horizon. Le canyon des Kolka, aujourd'hui, il n'est plus polonais, non? Dans les années 80, c'était les premières explorations. Aujourd'hui, ce sont les vrais sportifs, les tout grands montagnards qui s'y attaquent. Et la première fois où j'ai mis le nez sur le sommet du Mirador, ce qui m'a étonné, c'est ce tout petit point. Vous le voyez, un petit point rouge suivi d'un point vert, tout au fond là, à plus de 1500 mètres, qui sont complètement bousculés par l'eau, par cette brillance qu'on voit s'agiter en mousse blanche, des kayaks qui osent prendre certainement, vous le savez, on le fait déjà sur le Colorado, mais le faire sur le canyon des Kolka, c'est vraiment aimer non seulement le sport, mais avoir une envie de se casser le nez sur n'importe quel rocher, de se faire prendre par la mousse, par la force de l'eau, ben, ça creuse encore. Attendez quelques millions d'années, vous verrez, on risque de se retrouver au niveau de la mer, au fond du Kolka. Thank you. Je suis un peu sorcière. Mon père était chaman. Si je rencontre un homme, je voudrais qu'il soit capable de monter tout seul le Misti. Je monte moi-même. J'ai dû monter 6 fois. Ah oui, je pense bien que je suis monté 6 fois à plus de 5800 mètres d'altitude. Seul? Oui, seul. Je suis Quechua. Fille de chaman, ça signifie chercher la poue. Ça signifie chercher le sommet sacré. Ça signifie dire à son homme, si tu veux être mon homme, tu dois être capable de monter tout seul le Misti. On est jeune femme, on a 31 ans. Pas mariée? Curieux pour une Inca. Curieux pour une fille qui parle Quechua, qui petit à petit s'est insérée dans la vie moderne et qui est capable de discuter avec un Américain, avec un Anglais, avec un Suisse comme nous, et de vous raconter sa vie, son évolution, sa façon d'avoir travaillé à l'université d'Arequipa. Tiens, elle a vu la première momie qui est arrivée des hauts plateaux. Tiens, elle a travaillé à l'université catholique. Mais elle a toujours eu un problème. Elle a ce côté indien. Elle a ce regard un peu curieux. Il est perçant, c'est vrai. Mais en même temps, on sent que les autres sont différents. Quand on parle de la capitale, qui est pourtant bien loin, là, vous êtes blotti dans votre doudoune. Il est 11h, minuit, le temps passe doucement. L'électricité s'est éteinte vers 10h30. Il n'y a plus de lumière du tout dans la vallée. Une bougie, éventuellement, et puis les derniers bruits de la nuit. Enfin, je dirais même les premiers, parce que ce qui est effarant, c'est que le son change, les choses viennent de changer. Vous êtes à l'intérieur pour être un peu plus au chaud, bien sûr, mais tout à l'heure, vous avez fait une balade sur la terrasse, là, à la sortie de ce petit hôtel recouvert de chaume, avec ce confort qui fait qu'on se sent bien sous des draps et sous des doudounes confortables. Oh, on pourrait laisser la sienne, hein, si jamais... la température est descendue quand même assez bas, ça picote le nez, là. On est à moins 12, moins 13, là. On est quand même aux alentours de 4000 et des poussières. Et dehors, ce qui vous a touché, c'est que, une fois que le soleil s'est caché d'un coup, là, derrière le canyon, il y a tout à coup une luminosité étrange qui s'est faite. Le ciel, d'un seul coup, a passé comme un écran du bleu parfait à cette couleur qui passe ensuite à l'orange, et le noir prend un ton très différent. Il a passé par tous les tons du rouge, je vous le laisse, mais c'est la force du noir. Et puis, paf, elle vient de s'allumer. Mais elle est énorme, Vénus. Et puis, elle est encore plus énorme, elle est arrivée juste derrière un sommet, la Lune. Et quand je dis Lune, quand je dis étoile, quand je dis Voie lactée, c'est la première fois que vous voyez toutes ces taches noires à l'intérieur de la Voie lactée. Il y a des dessins, et tout à coup, avec une fille de chaman, vous commencez à regarder les constellations, on va parler des ancêtres. Tiens, vous avez remarqué les deux jumeaux, tiens, les yeux du lama. Les yeux du lama qui est une constellation, et puis vous suivez la suivante à partir de Vénus, vous arrivez à, tiens, la croix du sud, elle est parfaite. Elle a une forme extrêmement précise, et puis à côté, vous voyez petit à petit toutes les légendes et toutes les formes inca. Elle sait les lire, elle a l'habitude, son père le faisait. Tiens, son père est d'ailleurs mort il y a quelques années, et tout à coup, au moment, ça c'est assez curieux, il n'y a que les Indiens pour vivre des choses pareilles. Vous imaginez votre père dans une petite hutte avec la mère qui pleure, vos frères et sœurs, les pleureuses au sens large du terme, tout le village s'en mêle, c'était un être qui était aimé, c'était déjà un patriarche fort, solide comme un paysan quechua, il est dans son lit et la description était fascinante parce que, bon il fait trop froid, on va rentrer, mais on va discuter doucement, on va passer pratiquement toute la nuit comme cela, en sachant que les étoiles continuent à tourner dans le ciel, et là la bougie s'éteint doucement et vous voyez son père qui est là dans son lit. Elle décrit très bien la pièce. Il y a ce qu'on appelle une nuit de veille, hein, avec quelques cierges, maman qui pleure, qui a dû se mettre un peu plus de noir qu'à l'ordinaire. Elle a ce visage qui doit ressembler à celui de sa fille, avec son nez aquilin, avec son nez très brun, comme ça, cette façon très indienne de se comporter. Ce sont des pleurs intérieures, comme ça, c'est quelque chose qui s'étouffe. On ne dit pas grand-chose, on est fort quand on est paysan et qu'on vit à 4000 mètres d'altitude. Quand on est quechua, on a un langage curieux. Les femmes, tout à coup, acidifient leur langage. Elles montent à l'aigu quand elles veulent dire quelque chose de façon grave. Et elles chantent comme des oiseaux, pratiquement. Et là, elle est devant cet homme qui est étendu et qui, petit à petit, s'est certainement un peu refroidi. Est-ce qu'on dit refroidir? Oui, bien sûr, je crois que quand on meurt, on refroidit. Et tout à coup, cet homme se réveille. Ben oui, un peu comme Lazare. Il se réveille et il raconte sa façon d'avoir vécu sa mort. Et puis, tout à coup, il regarde sa main et à l'intérieur de sa main, il voit un symbole. Il voit une sorte de tache étrange. Il se retrouve comme s'il avait reçu un caillou à l'intérieur de la main, comme si quelque chose l'avait traversé. C'est son rêve, bien sûr, mais sa main emporte la trace. C'est ça qui est étrange. Et il se réveille avec sa main gauche, totalement marquée par son rêve. Et cet homme se dit qu'effectivement, il a été marqué par les dieux. Il raconte son aventure à sa famille et d'un jour à l'autre, il devient chaman. Il a tous les pouvoirs. Il commence à guérir ses voisins. Il commence à fonctionner par rapport à toute la société qui est de son village. Il se met à étudier les montagnes, à rencontrer les rivières, à raconter des histoires aux grottes, à pénétrer dans tout ce monde étrange que les Indiens ont toujours connu. Mais là, le dialogue commence. Cet homme va voir d'autres hommes, d'autres chamans. Il apprend, il devient véritablement un être qui a la connaissance non seulement des dieux, non seulement de la nature, mais qui petit à petit va le transmettre. Quand vous êtes une petite fille de 7-8 ans et que vous entretenez, enfin, vous savez que votre père, qui continue à être paysan, qui fonctionne tout à fait normalement, tout à coup, à partir de 9h du soir, va chercher. Mais en général, c'est curieux. Ces gens-là, lorsqu'ils sont vraiment quechua, bon, ils ont l'habitude, bien sûr, de mâcher la feuille de coca. Vous savez, j'ai envie de la mettre là, j'ai la bouche un peu pâteuse depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que l'altitude m'a un peu gêné. Je me mets tout à coup quelques feuilles dans la bouche, je mâche doucement. Et en même temps, j'aurais rajouté un petit rien de quinoa grillé. Ou plutôt un morceau de, qu'est-ce que je vais vous dire pour vous, bah, tiens, du charbon. En tout cas, quelque chose qui va permettre à l'alcaloïde de s'échapper. C'est-à-dire qu'en fait, on crée comme une sorte de catalysation avec la feuille de coca. La feuille a bon goût, hein, c'est un goût de thé vert, comme ça, un peu, quand vous la mâchez. Et vous la placez plutôt derrière les dents et vous gonflez petit à petit votre joue du côté que vous préférez. Moi, c'est à droite. Si vous le voulez à gauche, pas de problème. Et vous laissez la pelote, comme ça, la boule de feuille, pas trop mâchée, juste frappée, comme ça, juste touchée par vos molaires. Vous la laissez derrière les dents et vous serrez un peu. Hein, petit à petit, le jus sort doucement et vous rajoutez ce petit rien de charbon. Et là, tiens, je commence à sentir ma langue qui s'endort. Vous vous rappelez quand vous êtes sorti de chez le dentiste la dernière fois ? Tout s'endormait doucement comme ça. Et là, petit à petit, votre bouche devient un peu minérale, un peu curieuse. On a l'impression de ne plus avoir de véritables sensations. Et puis l'effet commence. Oh, ça n'est pas... Non, c'est pas une drogue, hein, ne confondez pas avec la cocaïne. Mais vous le sentez, dans la façon de l'ingérer, de le laisser descendre vers l'estomac, il y a quand même un effet. Ça vous excite, ça vous ouvre un peu les poumons. Et puis, à partir de là, vous prenez un peu de laine de lama, vous y rajoutez... Tiens, vous prenez une feuille de coca, vous y mettez un peu de graisse, le sindou, plus exactement. Non, c'est plutôt le lard gras d'un alpaca, par exemple. Vous déposez ceci sur la laine, vous y mettez un petit foetus de lama, vous faites une offrande, vous préparez tout cela, et puis vous allez laisser brûler cela. Tiens, il fait toujours froid dehors. L'offrande brûle, il doit être minuit, minuit et demi. Le sorcier, le chaman, est en train de communiquer avec les dieux, et ensuite, il revient à l'intérieur, et il va commencer à lire l'avenir, la façon de savoir comment se comporter. Il va communiquer avec la nature. Il vient de monter depuis le fond du canyon des Colca jusqu'au sommet. À, je dirais, Ambato, 6300 mètres d'altitude. Chachani, 6000 mètres d'altitude. Ah, il fera peut-être un détour sur le Misti. Je le vois planer comme un grand condor. Picchu, Picchu. Là, vous êtes carrément non seulement sur une montagne, mais sur ses apous. Les montagnes qui font les frontières du monde, celles qui vous font comprendre que tout au sommet du ciel, là-haut, où le dernier Inca se rapproche du soleil, le simple chaman d'aujourd'hui regarde le monde d'en haut. Regardez l'œil du condor, il plane 3,50 m d'envergure.